Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui mute avec son temps. On aura eu tendance à penser l'humain de demain comme un dieu ou un cyborg. Or, c'est peut-être avant tout un humain très humain.
C'est fou de la voir comme ça, elle est déstabilisée.
Elle est très déstabilisée depuis le début de ces jeux.
Ouais, elle a dit que c'était dur, elle avait l'impression d'avoir le monde entier sur ses épaules.
Au JO de Tokyo, l'américaine Simone Biles, la plus grande gymnaste de tous les temps, ne s'est pas présentée au concours général. Elle a abandonné après un saut raté qui semblait l'avoir emmenée ailleurs. Simone Biles a déclaré devoir faire face à ses démons. Et si la plus grande métamorphose qui attendait l'humain était de devenir enfin lui-même ?
Répétez après moi. Je suis en paix.
Je suis en paix.
Je suis au centre.
Je suis au centre.
J'ai confiance en l'avenir.
J'ai confiance en l'avenir.
On s'entraîne et on en parle avec un philosophe hypersensible, Fabrice Midal, et une actrice en titane, Agathe Roussel.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Le futur des corps et des esprits, c'est jusqu'à 19h.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Un homme, objet de désir et un cœur battant. Sur France Inter, Clara Luciani avec son tube de rupture de l'été. Le reste, dansé ou déprimé, pourquoi choisir ? Il est philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation et jamais calme. Car l'exercice de la pensée ne l'amène pas à être zen, mais à être lui-même humain, trop humain. Il a fait de l'hypersensibilité un pouvoir méconnu. Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Et bonsoir. Est-ce que vous acceptez pour nous de faire cet exercice de commentaires d'actualité, commentaires approfondis sur ce forfait donc de Simone Biles, la grande gymnaste américaine?
C'était bouleversant de voir qu'on puisse, enfin elle en plus qui avait dénoncé auparavant les violences faites aux femmes, les abus sexuels.
Dont elle a été victime.
Donc c'est intéressant qu'il y ait quand même une voix parle de la détresse psychique des grands athlètes, comme si moi j'y vois la possibilité de retrouver une dimension humaine et d'hypersensibilité. Et évidemment j'ai pensé au film de Michael Phelps sur le poids de l'or, oui, qui est ce nageur américain qui a eu le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques et qui a fait un film très complet pour parler justement de la souffrance des athlètes. Et c'est intéressant qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'on enlève le modèle d'une forme d'invulnérabilité et qu'on essaye de montrer à la fois l'aspect lumineux et l'aspect aussi difficile. Je crois que c'est une réconciliation, il y a quelque chose là comme un signe des temps.
Il y a d'autres athlètes qui ont eu un comportement similaire. On peut penser notamment à une tenniswoman japonaise, Naomi Osaka, qui a refusé la pression en se sabordant. Et puis, dans un autre registre, il y a un entraîneur australien qui a exulté, qui est rentré dans une transe, une crise de joie, après que sa joueuse a gagné, sa nageuse a gagné la médaille d'or. Est-ce qu'il y a, en fait, au fond, l'expression là, non pas d'une anormalité, mais de ce que devrait être l'humain lorsqu'il s'accepte, parce qu'il donne forme à ce qu'il a profondément en lui.
Oui, et puis elle disait très bien, Simone Biles, qu'elle avait plus de joie, et qu'au fond...
Elle n'avait plus de joie à faire ce qu'elle faisait, oui.
Que la pression finit par être écrasante. Et c'est vrai que beaucoup, en plus, beaucoup de grands champions sont des hypersensibles, ils ont des antennes extrêmement fortes qui leur donnent une force inouïe, mais qui les rend aussi fragiles. Et on a du mal à penser les deux ensemble. Quand j'ai écrit mon livre sur l'hypersensibilité, j'avais été très étonné de découvrir un texte d'Aristote qui décrit que les grands hypersensibles sont à la fois des grands hommes politiques, bon là je crois que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, les philosophes et les grands sportifs. Et on est étonné parce que nous, hypersensibles, on pense pas du tout que ça... On pense pas...
En tout cas, on pense que ça peut entraver, en tout cas.
Oui, et en fait, non, parce que vous sentez beaucoup de choses. Vous avez une sorte de don, et je crois que c'est ça l'hypersensibilité, c'est à la fois au niveau sensible et au niveau émotionnel, vous avez comme des antennes qui vous donnent un atout, mais qui peuvent aussi vous rendre plus vulnérable. Et il faut réussir à comprendre que la vulnérabilité, c'est pas forcément une faiblesse.
Il n'y avait pas de préparateurs mentaux en France en natation, officiellement. Moi j'étais le premier salarié. À l'époque, en fait, c'était plutôt un sujet tabou. Pendant des années, on a cru à tort que les émotions, bah, c'était l'ennemi, en fait, notre ennemi, qu'il fallait les combattre, qu'il fallait surtout pas ressentir des émotions. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est vivre les émotions. Les émotions, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un supplément d'âme. Et c'est ce supplément d'âme, quand on arrive à le maîtriser, et on peut le maîtriser, qui fait qu'à un moment donné, bah, on peut se sublimer, on peut avoir des résultats qu'on ne soupçonnait pas.
Dans la tête des champions, un documentaire de Jean-Yves Couchard qui a été diffusé sur Arte. À l'instant, c'était Thomas Samu, préparateur mental. Il pourrait faire du Fabrice Midal, lui
oui,
aussi.
Oui, parce que quand je travaille sur l'hypersensibilité, je fais pas mal de recherches sur les neurosciences. Et on voit bien aujourd'hui que ce mythe, que les émotions nous emmerderaient et qu'on serait mieux si on serait plus...
plus fort, plus performant.
Voilà, en étant juste sans sensation et sans émotion, c'est complètement faux. Vous pouvez pas, tout est lié. Il n'y a pas de pensée sans émotion, sans sensibilité. Vous avez de l'enthousiasme, et ben, il y a une forme de pensée et ça s'inscrit corporellement. Et c'est cette articulation des trois qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'on vit avec des siècles. Il y a le corps et il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est plus important que le corps. Donc c'est tout ça qui entrave. Et les émotions, on a beaucoup de mal à les comprendre. Et c'est vrai que des fois, on est submergé par les émotions. Mais parfois, on est très heureux d'être submergé par les émotions. Donc là, il y a tout un travail d'écoute et de rencontre des émotions qui me semble essentiel.
Il y a un travail de rencontre entre aussi philosophie occidentale et philosophie orientale, entre la philosophie et les questions qui ont trait à l'existence. On sait que on essaye de séparer philosophie et questions, on va dire, d'existence. Vous les croisez le plus souvent. C'est finalement le cloisonnement, en fait, des disciplines, le cloisonnement dans la vision de l'histoire de la philosophie qu'on paye aujourd'hui.
Qu'on paye, oui, une vision qui s'est un peu recroquevillée. C'est quand même très passionnant que l'Occident naît avec Platon, qui parle sans arrêt de l'enthousiasme. Et on fait de Platon le modèle du rationalisme, et il n'arrête pas de parler des émotions, de l'amour, de la passion qui nous permet de nous dépasser. Et c'est le cœur de sa pensée qui est marqué par cet enthousiasme-là. Et je crois que c'est vraiment la clé. Quand je parle avec beaucoup d'hypersensibles, ils me disent souvent, si j'étais pas hypersensible, je serais heureux, il faut que vous me trouviez un moyen de me débarrasser de mon hypersensibilité. C'est ça la catastrophe. En fait, il faut faire l'inverse. Faut explorer son hypersensibilité, faut explorer ses émotions, faut entrer en rapport à ce que l'on sent pour le transformer et pas le liquider. Mais le seul modèle qu'on a, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'on parle de gestion des émotions, ça va pas, parce que gestion, on gère son compte en banque. C'est pas vraiment gestion des émotions. Ça, même préparateur mental, moi, ça me gêne un peu comme formulation. Quelque chose qui est un peu déshumanisé. En fait, ce qu'il faudrait essayer de montrer, c'est est-ce qu'on peut avoir un rapport d'écoute, un rapport humain à soi-même? Et c'est ça qui emmène à une transformation. Et au fond, c'est ça, moi, je trouvais dans le documentaire, Le poids de l'or, ce que disaient les sportifs, c'était que ils ne comptaient que pour la performance. On leur niait le rapport à leurs peurs, à leurs émotions et à la dépression qu'ils font après des grands événements. 80% des sportifs après les Jeux Olympiques font une forme de dépression. Et au fond, c'est parce qu'on leur dénie quelque chose de leur humanité. Et c'est ça le paradoxe. C'est en rencontrant notre humanité qu'on peut la transcender et pas en la déniant. Mais le modèle qu'il y a partout, c'est soyez plus performant, fermez votre gueule, écrasez vos émotions, soyez performant. Et c'est ça qui est le plus violent pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et donc,
et qui finalement ne dessine pas tant que ça l'homme de demain.
Ne dessine pas du tout. On se sent coupable d'avoir des émotions, on se sent coupable d'avoir peur. Et c'est impressionnant l'impact qu'a eu les propos de Simone Biles. Les gens se sont sentis autorisés à toucher leur vulnérabilité et la remercier, voyez.
Alors, vous aimez beaucoup citer George Orwell. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection. Mmh. Je voudrais vous proposer une autre citation que j'ai croisée en préparant cette émission. Elle est de Simone de Beauvoir. J'accepte la grande aventure d'être moi-même.
C'est ça. Oui. La première, c'est qu'on croit qu'il faut être parfait. C'est très intéressant pour les grands sportifs. Ils n'ont pas à être parfaits. Ils ont à être pleinement eux-mêmes pour gagner à partir de ce qu'ils sont, de leurs caractéristiques, de leurs passions, de ce qu'ils sont. Et donc, il y a beaucoup de points communs entre ne pas être parfait et accepter d'être soi-même, rencontrer qui l'on est. Et le problème, c'est qu'on est souvent très à distance de soi-même. On se méconnaît profondément. On est pris par tellement d'injonctions sociales, familiales, que du coup, se rencontrer l'expérience qui est en nous. Il faut bien comprendre que être soi-même, c'est pas un truc fermé, c'est pas une identité figée, c'est une aventure, comme le dit très bien. C'est l'aventure d'être à l'écoute de ce qui nous arrive, qui tout le temps nous surprend. Je serai jamais une fois pour toutes qui je suis. Mais me poser cette question, c'est accepter à un moment de sortir de ce poids des injonctions, les injonctions que vivent les sportifs. Mais moi, j'ai une chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur les vacances et rater ses vacances. Et j'ai plein de messages de gens qui me disent « Je me mets une pression telle pendant mes vacances que ça devient le cauchemar. » Et on voit même que... Autorisez-vous à rater vos vacances, ou à pas tout planifier, ou à pas vouloir être parfait, ou à vouloir être hypersensible.
Mais on voit bien qu'il y a une articulation supplémentaire. C'est celle, on va dire, d'une société ultra-capitaliste où finalement... Oui. Ces corrections, en fait, par rapport aux défauts sont aussi extrêmement exigées, nécessaires, comme vous disiez, gérées, réduites, organisées, perfectionnées. Vous avez beaucoup étudié Kafka et cette idée, en fait, d'un individu pris dans un dédale d'injonctions.
dans un dédale d'injonction, dans une interdiction d'être soi-même, dans ce que je finis par appeler une sorte de capitalisme psychique. Parce qu'on voit bien le capitalisme qui est la gestion et, la, et le fait de, d'utiliser tout pour en avoir le meilleur rendement, la terre, les eaux, les hommes. Mais on voit mal, on voit moins bien comment on a incorporé ça, et on parle donc de gestion du stress, on parle de potentialiser son capital santé, et donc on se rend pas compte qu'on a un rapport à soi-même qui est un rapport gestionnaire d'une extraordinaire violence. Et cette violence, ça devient insoutenable. Et beaucoup de gens finissent par craquer d'un manque de rapport humain à eux-mêmes. Au fond, de retrouver une modalité humaine, une modalité sensible, une modalité émotionnelle. Et ce qui est ça qui est passionnant, c'est sensible, émotionnel, empathique, sont des termes qui se lient les uns dans les autres. Et c'est ça qu'il faut retrouver, qui me semble vraiment essentiel. Et c'est bien ce que voit Kafka, il dit « nous sommes pas dans un monde atroce, nous sommes dans un monde détraqué ». Et c'est ça, il y a quelque chose qui est détraqué dans la manière dont la pression nous déshumanise. Et on peut voir comme un symbole, ce qu'a fait Simone Biles, comme un symbole de quelqu'un qui ose être humain. Et oser être humain, c'est toujours tellement extraordinaire. Il se passe quelque chose, on a tous besoin de nous sentir comme autorisés.
Et il y a d'autant plus un paradoxe, on va dire, à exiger cette non-humanité dans un moment qui est particulièrement intranquille.
Intranquille, oui. Les moments sont toujours intranquilles, mais est-ce
mais
qu'on
là,
peut...
on est dans un moment de transformation particulièrement intranquille. C'est d'autant plus paradoxal de poser cette injonction.
Oui, je dirais, on est dans un temps où l'incertain nous semble injuste, nous semble devoir être absolument détruit et effacé. Or, l'incertain est inhérent à la condition humaine. Et donc, apprivoiser l'incertitude, c'est peut-être trouver une véritable force. Vous voyez, avec toujours ce paradoxe, c'est entrer dans notre humanité, c'est ça qui va nous rendre forts. Pas nous interdire d'être humains. Entrer dans l'incertitude, c'est ça qui va nous rendre...
Capable de projection.
De projection, d'invention. Voilà, et c'est ça que je trouve à même de repenser notre existence. Et je crois que repenser notre existence, repenser... Ce que c'est cette hypersensibilité au cœur de l'existence humaine avec lequel il faut faire la paix, c'est vraiment essentiel et incontournable.
Alors vous avez un objet peut-être pour nous aider dans le futur, une appli, un outil que nous ne possédons pas encore, mais que vous auriez amené ou auquel vous auriez pensé, Fabrice Midal.
Je fais beaucoup d'exercices pour aider les hypersensibles à noter quelques mots de ce qu'ils sentent, pour rentrer en rapport. Et je me suis rendu compte que peu de gens utilisent un crayon, un stylo. Et j'avais une amie, elle fait tout par l'ordinateur, elle tape très bien. Et quand je lui ai dit de faire avec un stylo, elle était déconcertée. Il y avait quelque chose comme une mise à nu. Et je me suis dit que peut-être l'outil de demain, l'outil qui nous permet de nous réconcilier avec notre humanité, ce sera un beau stylo. Et peut-être je peux conseiller à tous les auditeurs d'avoir un stylo, peut-être un petit carnet. Et comme j'ai moi, et de prendre du temps de juste parfois noter juste quelques mots de ce qu'on sent, sans pas pour faire un texte, mais juste dire voilà, je suis content, triste, et puis je pense à un oiseau, à une fleur, à un arbre, de juste mettre des mots qui permettent d'approcher ce qu'on sent. Je pense que c'est un petit exercice qui permet de retrouver quelque chose de notre intimité qui nous fait si peur, alors que lorsqu'on la rencontre, c'est tellement merveilleux.
Suis-je hypersensible ? Peut-être vous posez-vous la question. La réponse est entre autres dans le livre de Fabrice Midal, édité chez Flammarion. Un grand merci à vous.
Merci.
Blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared. Medicating, quick step reflections in the dark mirrors of our life. Polaris, watching the embers fall off to Sublime Boulevard. Medicating, joining the saline to start the inspection of the line. See the birds, they have been taken.
Voit le futur dans ses aventures sonores, promet que nous nous reverrons et ramène le saxo en 2021. Il n'y avait que lui pour le faire. Damon Albarn, leader des groupes Blur et Gorillaz, est de retour avec Polaris sur France Inter, extrait de son prochain album prévu pour novembre 2021.
Un monde nouveau. Mathilde Serrel sur France Inter.
Le monde est déjà nouveau sur France Inter. Il se réinvente chaque jour, tous azimuts, et ici on suit ses expérimentations en temps réel. Pour cela, j'accueille deux laborantines, Fanny Chéroux de l'hebdomadaire La Croix et Carole Boinet du mensuel Les Inrecuptibles. On commence par vous, Fanny, chef de rubrique à La Croix l'hebdo, le magazine qui donne des raisons concrètes d'espérer. En marge de la crise sanitaire, de nouvelles façons de vivre et de travailler se sont improvisées ou concrétisées. Qu'est-ce qu'on en fait, Fanny ?
Oui, la crise sanitaire a largement bousculé nos modes de vie, avec moins de déplacements, plus de numérique, et pour certains, des envies d'ailleurs. Le ministère chargé du logement mène jusqu'au 15 août une consultation pour recueillir les expériences et les idées qui sont nées pendant ces mois où notre quotidien a été transformé. Et c'est un sujet vaste, mais le questionnaire, lui, il ne prend que 15 minutes.
Alors, est-ce que vous avez fait ce questionnaire, Fanny ?
Oui, je l'ai fait. Et voilà ce que je peux en dire. Tout est anonyme. Les questions les plus personnelles n'arrivent qu'à la fin. Mais en fait, avant ça, c'est des questions plus ciblées sur l'expérience de l'année qu'on vient de passer. Et c'est bien un questionnaire sur nos nouveaux usages, ceux qu'on envisage beaucoup plus facilement depuis un an.
Alors, comment est-ce qu'on en arrive à parler des villes de demain comme expérience collective ?
Bon, alors là, c'est justement le tour de force. Le questionnaire, il est orienté vers une expérience assez personnelle, mais on sent à travers les questions qu'on nous pose que la réponse peut assez vite devenir collective. L'impact sur le logement, sur les transports, sur nos modes de consommation. En gros, c'est comme si on se mettait d'accord sur un diagnostic partagé et qu'on évoluait ensemble vers des solutions pour qu'elles soient acceptées. Parce qu'en fait, il y a le questionnaire d'une part et il y a tout ce qu'il ouvre comme possibilité une fois qu'on a fini d'y répondre.
Mais il y a toujours un potentiel gadget ou effet d'annonce quand on parle de consultation citoyenne. Alors, est-ce qu'il existe déjà des pistes concrètes, Fanny ?
Oui, tout simplement parce qu'on n'a pas attendu la crise sanitaire pour commencer les changements. En Alsace, c'est à Oswald, c'est les rives du Bory. Et ils dessinent la ville un peu de demain. C'est presque futuriste. C'est comme un éco-quartier qui développe un schéma d'urbanisation qui répond à la question de l'inondabilité. Le sujet, il est brûlant quand on voit l'actu de cet été. Les bâtiments de logement sont implantés sur 5 pontons habités et flottants, au-dessus d'une prairie inondable. Chaque ponton accueille une mixité de logements à la fois sociaux en accession libre. Et il y a des habitations individuelles, intermédiaires et collectives. Donc là, le paysage, il a la part belle, avec une végétation hyper abondante, des espaces ouverts, partagés, avec un cœur de ponton vivant et convivial. En fait, sur cette plateforme, on peut découvrir une centaine de projets démonstrateurs, on va dire, qui préfigurent la ville de demain.
Donc c'est à la fois des questions sur ce que l'on voudrait dans la ville de demain, sur son portrait robot et en même temps sur ce qui existe déjà comme prototype de ville de demain. Merci beaucoup Fanny. L'Hebdo La Croix prépare pour la rentrée un dossier de 12 pages sur le sujet Habiter demain, construire moins, construire mieux. À vous Carole Boinet, rédactrice en chef adjointe des Inrocuptibles et chef du supplément sexe des Inrocs, le rituel supplément sexe de l'été. Vous nous parlez d'une nouvelle pratique, Carole.
Oui, nouvelle, pas vraiment Mathilde, mais en voie de démocratisation, je dirais, très certainement, dans une société post-MeToo qui se pose de plus en plus de questions sur ses pratiques sexuelles. Je vais donc commencer par vous parler d'un couple d'amoureux, Elsa et Harry, appelons-les. Elle et lui font l'amour ensemble de façon, disons, plutôt conventionnelle. Lui, le garçon, la pénètre, elle, la fille. Mais parfois, elle, la fille, le pénètre, lui, le garçon. Alors, comment me direz-vous? Eh bien, de plusieurs façons.
Comment? Je vous le dis.
Ah oui. En l'occurrence, tous deux ont une prédilection pour le gode-ceinture, mais nouvelle génération, attention, c'est un sextoy qui possède deux extrémités. Alors, l'une s'enfonce dans son vagin à elle, la fille, et l'autre dans son anus à lui, le garçon. Et donc, en donnant des coups de hanche, c'est la fille qui active son plaisir à elle, mais aussi à lui. Cette pratique, elle a un nom, c'est le pegging. C'est un terme qui a été inventé par le chroniqueur Q britannique Dan Savage en 2001 et qu'on traduit en français généralement par le terme de chevillage.
Revenons à notre petit couple d'amoureux en cheville.
Oui, revenons à Elsa et Harry. Alors Elsa me raconte tirer de cette pratique une jouissance extrême, dit-elle, hein, du fait, je cite, de pouvoir prendre son mec comme lui l'apprend, c'est-à-dire à quatre pattes et de le tenir par les hanches. Et de conclure, c'est hyper fort. Et son mec Harry m'explique, lui, jouir à la fois en fait du renversement des rôles, de voir sa femme en position de dominante, et aussi de la stimulation de sa prostate, hein, parce qu'il y a ça au cœur du sujet, il ne faut pas oublier le fameux plaisir prostatique.
Alors vous avez mené une enquête sur plusieurs semaines, Carole, qui paraîtra dans le prochain numéro des Inrocuptibles, le mensuel de septembre. Est-ce que vous pouvez nous en donner les premières conclusions?
Des témoignages de ce type, j'en ai vraiment reçu à l'appel, c'était assez incroyable. Donc certaines femmes pénètrent avec un doigt, d'autres avec la langue, d'autres encore avec un sextoy, comme je disais. La plupart des personnes qui ont recours à cette pratique mènent une réflexion sur la notion de pénétration. Donc pourquoi faudra-t-il avoir un pénis pour pénétrer une tierce personne? Pourquoi dans un couple hétérosexuel, la relation sexuelle devrait-elle se limiter à la pénétration d'une femme par un homme? Mais au-delà de sa dimension politique, ce qui est intéressant, c'est que cette pratique, elle reste bel et bien érotique. Par exemple, une jeune femme, Annabelle, me raconte prendre du plaisir à voir le corps masculin sous un autre angle, à voir aussi ce même corps masculin lâché totalement prise. Elle m'écrit aussi, je cite, « C'est une nécessité pour exaucer tout mon être. Si j'étais un dieu et que je régissais la race humaine, je lui imposerais un changement de sexe régulier tous les 6 mois, histoire que tout le monde expérimente le bordel lié à nos sexes. » Je trouve ça formidable.
La grande métamorphose, c'est une remise en question de la notion de virilité ou plutôt des stéréotypes de la virilité qu'on a jusqu'ici.
Oui, depuis l'Antiquité gréco-romaine, la notion de virilité imposée aux hommes repose entre autres sur la stigmatisation de la personne qui est pénétrée, qui serait associée donc à la soumission et à la faiblesse. C'est ce qu'explique d'ailleurs brillamment la philosophe Olivia Gazalet dans son ouvrage « Le mythe de la virilité » qui est paru en 2017 et que je conseille à tout le monde fortement de
lire.
Moi
aussi, je recommande.
Et donc, en somme, accepter pour un homme de se faire pénétrer participe à la déconstruction du mythe de la virilité forgé par des siècles et des siècles de patriarcat. C'est l'objectif, par exemple, de Misha Stella, qui est une femme qui organise des ateliers pénétration depuis une dizaine d'années environ à Berlin, mais aussi dans plein de villes européennes. Le pegging permet donc aux pénétrants de comprendre ce que ressentent les pénétrés, mais aussi de découvrir ce champ des possibles qu'est le plaisir prostatique, hein, trop longtemps ignoré. Et comme le dit si bien cette fameuse Misha Stella, donc, qui organise ses ateliers pénétration, donner des godes ceintures aux femmes, c'est une bonne manière de changer le monde.
Merci Carole d'avoir lancé ici la révolution des godes ceintures, le supplément sexe des Arocs est en kiosque. Elle a peur du sang et n'aime pas les films d'horreur. Ça n'a pas été un obstacle pour jouer dans le film qui a enchanté sa grand-mère. Et aussi rafler la Palme d'Or. Palme d'Or historique à Julia Ducournau pour Titane. Journaliste, actrice, photographe, mannequin, DJ, entrepreneur du futur, Agathe Roussel, 33 ans, et l'invitée d'un monde nouveau. Bonjour et bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler du pegging, mais le passage du masculin au féminin, ça vous connaît, c'est le cas de votre personnage dans Titane.
Ouais, ouais. Alors, j'avais pas entendu parler du pegging jusqu'à il y a 3 minutes, mais... ouais, après mon personnage, il change pas de genre. Il se fait passer pour.
Il se transforme, pour passer d'un genre à l'autre.
Ouais, ouais. Mais il se fait passer pour, il se transforme pas vraiment. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry.
Les zombies avec She's Not There à l'instant, la BO du film Titane. Titane, Agathe Roussel y joue Alexia, une jeune danseuse au physique androgyne avec un morceau de métal dans la tête, hyper sexualisée dans un salon de tuning le jour. Elle est tueuse sociopathe le soir, traversée par des troubles identitaires et aussi par une lumière qui la guide vers un certain Vincent Lindon, sans vraiment, donc sans changer de genre, mais adopter une sorte de couverture de genre, Agathe Roussel.
Ouais, c'est ça, c'est une couverture qu'elle adopte parce que c'est pas vraiment, Alexia, elle traverse pas vraiment de crise identitaire. Elle se passe juste un truc très basique pour elle qui est qu'elle a vraiment la police aux fesses et qu'il faut qu'elle s'en sorte. Et pour ça, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, elle se fait passer pour un garçon parce que c'est l'histoire de ce Adrien Legrand qu'on retrouve plus depuis 10 ans, etc., qui est placardé partout.
Comme tous les enfants disparus, voilà, qu'on
exactement.
Va voir cet été, notamment dans les gares.
Exactement. Donc
elle
c'est
voit le la cas ressemblance. De l'enfant de Vincent Lindon.
Voilà. Et elle voit la ressemblance. Elle dit mais je peux ressembler à ce type. Donc elle se casse le nez puis. Elle fait le garçon, quoi.
Mais ne dévoilez pas tout le film, vous
non.
qui dites en plus que c'est un film impossible à résumer. Un petit peu comme le 7e saut d'Igmar Bergman. Hein, si je vous dis que c'est un chevalier qui joue aux échecs avec la mort, je vous ai à peu près rien dit du film.
C'est ça.
C'est le signe que c'est un bon film quand on ne le résume pas. Pour vous, Agathe Roussel.
Ouais, je crois que mes films préférés sont difficiles à résumer, effectivement. Mais celui-ci, effectivement, il est impossible à résumer sans tout expliquer, parce que c'est la trajectoire d'un personnage qui passe par tellement d'états et qui va passer d'une quasi non-humanité à un glissement dans l'humanité au fur et à mesure. C'est un parcours presque mythologique et c'est impossible de résumer un conte mythologique.
On va écouter ce moment mythique du Festival de Cannes.
The Palme d'Or.
La Palme d'Or est décernée à Titane.
Je voudrais remercier infiniment le jury de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.
Merci au jury de laisser rentrer les monstres, dit Julia Ducournau. Une phrase qui a résonné, qui s'est amplifiée depuis ce discours à Cannes. Comment vous l'entendez, vous, cette phrase ?
Je pense que c'est une phrase très libératoire et libératrice, parce que elle dit les monstres, ça peut être les freaks, et ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils n'ont pas leur place. C'est difficile de trouver sa place dans le monde. Moi j'ai mis du temps par exemple, mais il y a beaucoup de gens qui mettent du temps, et là de dire laisser rentrer les monstres, mais laisser rentrer les freaks, laisser rentrer tous ceux qui ne correspondent pas à une norme sur le devant de la scène, laissez-les se montrer, laissez-les faire, c'est extrêmement important, et c'est fou qu'on a attendu 2021 pour entendre un discours pareil.
Et il y a comme une revanche des esthétiques freaks, ou des soi-disant monstres, hein, dans une époque tellement folle qu'elle ne peut plus se permettre en fait, d'être normative, peut-être.
Ouais, mais en fait, c'est juste que les personnes dont on parlait en les appelant freaks et tout, par exemple, si on parle des personnes transgenres, parce que le film a beaucoup remué cette thématique-là. Les transgenres ont toujours existé, par exemple. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ont la parole. Et en fait, ça, moi, il me semble, je sais pas, je suis pas sociologue, mais il me semble que depuis MeToo, quand même, c'est pas juste une libération de la parole, c'est que les gens, maintenant, c'est une question de survie. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on parle plus, on meurt. Donc c'est très important. Ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les personnes, ça vaut pour les minorités en général.
Eh bien, c'est à partir de cette position de malade mental où vous me renvoyez que je m'adresse à vous en tant que singe humain d'une nouvelle ère. Je suis un monstre qui vous parle.
Le monstre que vous avez construit avec vos discours et vos pratiques cliniques.
Je suis le monstre qui se lève du divan et prend la parole, non pas en tant que patient, mais en tant que citoyen, en tant que votre égal monstrueux.
Je suis un monstre qui vous parle, texte de Paul B. Preciado qui a été joué à la Maison de la Poésie, scène littéraire par Anna Mouglalis, entre autres, Félix Marito et Naël Daria. Et comment ça s'enchasse avec vous, cette pensée de Paul B. Preciado sur les monstres?
La notion de monstre, à la base, monstre, ça veut dire montrer. Donc c'est ça qui est intéressant dans le monstre. C'est que ça veut dire montrer, c'est donner à voir, c'est aussi le travail de l'acteur. Et en vrai, on est tous monstrueux. On a tous une monstruosité parce qu'on se ressemble pas et on a tous quelque chose de différent. Après, sont considérés comme des monstres ceux qui ne sont pas dans la norme. Et en fait, là, tout le travail de ce que fait Paul B. Preciado, par exemple, mais beaucoup d'autres aussi, c'est que cette notion de monstre n'existe plus et qu'à un moment donné, il y a que des humains et qu'on s'accepte tous les uns les autres sans que notre pensée soit prédéterminée par une norme vraiment. Trop vieille, quoi.
Oui, et puis aussi peut-être une norme mortifère, parce que accepter les monstres, c'est donc pouvoir parler aux monstres et peut-être les emmener.
Mais accepter sa propre monstruosité aussi. Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, dire que c'est toujours l'autre, le monstre, qu'est-ce que ça fait de vous ? C'est très bizarre comme pensée. Donc c'est ça aussi, je pense que ça revient aussi à accepter sa propre monstruosité, à l'embrasser, et c'est très beau, en fait.
Il y a aussi une autre dimension qui est accepter sa propre monstruosité pour mieux finalement être capable de gérer cet aspect-là de l'humanité ensemble. Et c'est ce qu'on entendait dans cette grande déclaration d'Adèle Haenel, souvenez-vous, hein, c'était sur le plateau de Mediapart.
Oui, oui, bien sûr.
Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. C'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un moment où ils se regardent, où on se regarde.
on se regarde. Finalement, l'inclusivité, c'était cela aussi. On le caricature autrement parfois, mais c'est peut-être ça le sens de l'inclusivité.
Mais c'est ça, bien sûr.
Comprendre les uns les autres comme des monstres.
Mais bien sûr, parce qu'en plus, encore une fois, là, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'on se regarde. Et comme j'ai dit, le monstre, c'est montrer, c'est donner à voir. Du latin. Et donc c'est très intéressant qu'elle dise ça, parce qu'effectivement les monstres, il s'agit pas de les mettre au banc, et puis ce qu'on appelle les monstres, encore une fois, faut redéfinir, mais ceux qui ne sont pas dans la norme ne peuvent pas être exclus de la société, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on fait tous société, et les marges font société aussi. Et il faudrait qu'il n'y ait juste plus de marge. Mais c'est ce que dit Adèle Haenel, elle a raison.
Il y a également d'autres inspirations qui vous ont accompagné pendant ce tournage. J'ai vu que vous aviez beaucoup regardé la série Killing Eve, ouais, qui est signée de Phoebe Waller-Bridge, qui a révélé Jodie Comer, une jeune actrice de 27 ans. Oui. En quoi son personnage de Villanelle, qui exploite la misogynie de la société, vous a inspiré?
Oh bah ça m'a beaucoup, ça m'a non seulement inspiré, mais ça m'a aidé à travailler beaucoup. Elle, en fait, ce qui est génial dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive à reproduire exactement ce que font les psychopathes, ce qui est le cas aussi de mon personnage, d'Alexia, c'est que les psychopathes peuvent vous dire des trucs atroces, faire des trucs atroces, avec rien dans le regard. C'est-à-dire qu'il se passe rien dans le regard. Et elle le fait très bien quand elle fait Villanelle, parce qu'en fait, un psychopathe, n'a pas d'émotion, donc il ne sait pas comment réagir dans quelle situation. Donc en général, ce sont des gens très intelligents qui vont apprendre qu'à un enterrement, il faut pleurer, qu'à un anniversaire, on est content. Et en fait, ils vont reproduire ça, et ça, on le voit vachement bien dans Killing Eve, elle le fait super bien, et après, elle tue des gens de manière complètement indifférente, mais comme Alexia le fait aussi, soit par pulsion de mort, soit par nécessité, soit parce que c'est son job. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve qu'elle a bien réussi à montrer comment... Puis elle a un glissement dans l'humanité à un moment, forcément, parce qu'elle tombe amoureuse un peu, donc elle n'arrive pas à...
Comme votre personnage, elle avance vers l'humanité. Vous avez beaucoup parlé de ce rôle comme un rôle de corps, vous ouais. parliez des yeux à l'instant. En quoi c'était essentiellement là que ça se joue? On parlait du corps et de l'esprit tout à l'heure avec Fabrice Midal. Pourquoi là c'était un rôle de corps?
C'était un rôle de corps, déjà par défaut, parce que je parle très peu. Donc c'est un peu tout ce que j'avais.
Dans le scénario, vous vouliez dire?
Oui, je parle pas beaucoup, donc c'est un peu tout ce qui me restait. Mais non, c'est un rôle, en fait c'est un rôle de corps, surtout parce que le corps, bon, je l'ai dit beaucoup, mais je le redis parce que c'est vrai, le corps est vraiment traité comme un sujet, c'est presque un autre personnage du film. Non seulement mon corps, mais celui de Vincent, celui des pompiers, tous les corps sont traités vraiment comme des sujets, comme d'autres personnages encore. Et on a travaillé vraiment dans ce sens-là beaucoup. C'est-à-dire que moi, mon corps a été, je l'ai vraiment modelé pour le film. Je l'ai assoupli, je l'ai musclé, je l'ai renforcé. Je lui ai donné beaucoup de résistance et je l'ai aussi beaucoup soigné. Donc c'est vraiment un film de corps.
Il y a presque un malentendu sur le film qui est lié aussi à cette présentation que vous avez sur votre page Wikipédia de Agathe Roussel, No Gender, alors que voilà, vous n'êtes pas forcément catégorisé en No Gender, mais finalement je crois que l'idée qu'il y a derrière, c'est que la question de genre, vous partez du principe qu'elle l'est dépassée ou qu'elle devrait être dépassée.
Bon, déjà, je ne sais pas qui a fait cette page, mais, vraiment non merci.
On peut lui envoyer un...
Ouais, vraiment merci, quoi.
Allô, la patrouille de Wikipédia, il y a une correction à faire.
La Wikipolice. Non, alors je pense, effectivement, c'est aussi le message du film, quelque part, c'est que la question du genre ne devrait plus être pertinente, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus avoir à expliquer d'où on vient, qui on est, tout ça, ça devrait vraiment avoir disparu. Après, moi, j'aimerais bien, évidemment, cette page Wiki m'embête parce que je suis une femme cis, hétéro, enfin, je suis vraiment en plus d'un basique total, et je peux pas devenir un peu le fer de lance d'une communauté dont je ne fais pas partie, donc ça, c'est là où j'ai un problème avec ce truc. Par ailleurs, effectivement, la question du genre ne devrait plus être pertinente, or elle l'est toujours, parce que, étant toujours une femme, quand je rentre de soirée en mini-jupe et que je veux sortir mon chien en rentrant, je mets un jogging, et je me déguise en garçon pour sortir mon chien pour avoir la paix. Donc, même si j'aimerais que la question du genre ne soit plus un problème, plus une question, je le vis tous les jours, mais comme vous, comme toutes les femmes, et a fortiori les personnes trans, etc.
Est-ce qu'on pourrait, puisque vous avez été DJ, faire un quiz sonore avec vous? Vous allez voir si vous... Allez. Alors, c'est un blind test cinématico-musical. Premier extrait.
Police de Valero.
Je veux signaler un double meurtre.
Pouvez-vous me donner Si vous faites 2 km vers l'est sur Columbus Parkway, dans le parc, vous trouverez des jeunes dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm.
C'est la VF peut-être.
Des jeunes de l'an dernier.
Ça me dit rien du tout.
Bye, bye.
C'est Zodiac de David Fincher.
Mais non, mais oui, c'est parce que c'est en français aussi, là. Non, ben non. Ouais, je pense qu'en anglais, j'aurais reconnu.
Alors, deuxième chance.
La vérité me fa mal.
J'en ai marre.
Écoutez, écoutez, laissez-vous porter.
Mais je l'ai en plus.
Mais
oui, bien sûr, c'est oui, donc c'est Titane. C'est pas possible, ça vient
de... Mais je connais ça.
Je connais.
Caterina Caselli en 1966, hein, personne ne peut me juger. Que Dalida a changé par « Je t'en supplie, baisse un peu la radio », ce qui était beaucoup moins politique. Est-ce que vous la voyez comme une Tarantina, Julia Ducournau? On y retrouve quand même des choses.
Bah, cette scène, vraiment, effectivement, c'est compliqué de ne pas voir le lien.
Il faudra aller voir au cinéma la scène qui correspond, je ne dévoile rien.
Oui, c'est une scène vraiment géniale, je trouve. Une Tarantina, elle fait plus flipper que Tarantino, quand même. Hein. Enfin, son cinéma, pas elle, hein, mais son...
L'amour du cinéma de genre, le travail des bandes originales.
C'est quand même plus, c'est beaucoup plus, c'est plus... oui, sur ça, oui, bien sûr. Après, ce qu'elle fait, elle, est quand même beaucoup plus twisted que ce que fait Tarantino. C'est quand même... Il y a un fond quand même presque psychanalytique que je ne retrouve pas vraiment chez Tarantino.
Troisième extrait.
Alors les potes, on fait du feu? Pourquoi ce type m'appelle tout le temps les potes? Il m'en veut ou quoi? Non, non, il nous aime beaucoup. Enfin, moi, mais toi, il doit bien t'aimer. Oui. Je crois qu'il fait de l'esprit, tu sais. Oui. C'est peut-être très normal aussi. Nous, on est anormaux, alors on comprend pas très bien, mais dire les potes, c'est assez normal, non? Nathan, des fois, il dit des choses comme ça. Enfin, moi, ça me met à très mal à l'aise. Hein. Écoute, on est à Rome.
Comment je me suis disputé ma vie sexuelle d'Arnaud Desplechin? Vous avez regardé en boucle l'hypocagneuse à Louis Grand que vous étiez à Paris. Vous parliez de cinéma cérébral. À ce moment-là, vous avez changé depuis. C'est plus... Oh. Vous êtes toujours aussi fan de ce comment je me suis disputé ma vie sexuelle?
Là, j'ai pas reconnu parce que je l'ai vu la dernière fois il y a un bon 10 ans, je pense. Mais non, Desplechin, j'aime toujours énormément. Je pense que... Bon, après, il y a toutes sortes de cinémas qui sont géniaux. Et là, aujourd'hui, mais en fait, il y a beaucoup de cinémas que j'aime. En fait, en vrai, j'aime juste pas le cinéma de genre, mais c'est tout.
Ça tombe bien. Alors, un mot du livre que vous avez choisi pour célébrer avec nous les 40 ans de la loi Lang, la loi sur le prix unique du livre, Les Argonautes de Maggie Nelson.
Mm-hmm. Ouais. C'est un livre sublime que j'ai découvert cette année, qu'un ami m'a prêté et que je ne lui rendrai jamais, qui est un livre sublime qui traite de la question du genre, mais sous deux aspects très beaux, où en parallèle, on a elle parle de sa vie, hein, de toute façon, c'est sa vie. Et elle raconte comment c'est son parcours parallèle entre elle, qui est enceinte, et le...
Et finissez votre phrase.
Je raconte ma vie, non?
Non, c'est voilà. Il faut qu'on clôture.
Pardon. Autant pour moi, et bien sûr.
C'était
bien sûr,
trop rapide
évidemment,
pour vous.
Désolée. Non, oui, parce que c'était... Elle est avec son... Bon bref, elle vit... Elle est enceinte et elle est en même temps avec Harry Dodge, qui est... transgenre, et c'est, voilà, sur la question du genre, c'est intéressant.
Alors, Les Argonautes de Maggie Nelson, lisez-le, et Titane, allez le voir, de Julia Ducournau. Merci à toute l'équipe d'Un Monde Nouveau.